Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 7e épisode. Eugène de Rastignac est désormais lancé dans le monde. Il est devenu un jeune homme à la mode, à la conquête de la baronne de Nucingen. Il aimerait pouvoir quitter la pension Vauquer, mais n'a plus un sou. Vautrin s'engage à y remédier promptement et presse Rastignac de repenser à sa proposition. Mais le jeune homme rejette cette tentation, refusant d'être son complice.
Deux jours après, Poiret et Mademoiselle Michonneau se trouvaient assis sur un banc dans une allée solitaire du Jardin des Plantes et causaient avec ce monsieur qui paraissait à bon droit suspect à Bianchon, l'étudiant en médecine.
Mademoiselle, je ne vois pas d'où naissent vos scrupules. Son Excellence Monseigneur le ministre de la Police Générale du Royaume...
Du moment où Son Excellence Monseigneur le... Ah ben, c'est très différent.
Eh bien, Son Excellence a maintenant la certitude la plus complète que le prétendu Vautrin, logé dans la maison Vauquer, est un forçat évadé du bagne de Toulon, où il est connu sous le nom de Trompe-la-Mort.
Oh, Trompe-la-Mort. Il est bien heureux s'il a mérité ce nom-là.
Ce sobriquet est dû au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre la vie dans les entreprises extrêmement audacieuses qu'il a exécutées. Cet homme est dangereux, voyez-vous. Sa condamnation est même une chose qui lui a fait dans sa partie un honneur infini.
C'est donc un homme d'honneur.
À sa manière. Il a consenti à prendre sur son compte le crime d'un autre, un faux commis par un très beau jeune homme qu'il aimait beaucoup, un jeune Italien assez joueur, entré depuis au service militaire.
Mais si Son Excellence, le ministre de la Police, est sûr que M. Vautrin soit trompe-la-mort, pourquoi donc aurait-il besoin de moi ?
Vous allez comprendre la question. Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort, a toute la confiance des trois bagnes, qui l'ont choisi pour être leur agent et leur banquier. Il gagne beaucoup à s'occuper de ce genre d'affaires qui, nécessairement, veut un homme de marque.
Vous comprenez le calembour, Mademoiselle Michonneau. Monsieur l'appelle un homme de marque parce qu'il a été marqué.
Au fer rouge, sur l'épaule droite, le condamné Trompe-la-Mort à l'empreinte de la lettre T pour travaux forcés et celle du F. Des faussaires.
Eh bien...
Le faux Vautrin reçoit les capitaux de messieurs les forçats, les place, les leur conserve, et les tient à la disposition de ceux qui s'évadent ou de leur famille. Le gouvernement peut avoir un grand intérêt à mettre la main sur une caisse illicite que l'on dit monter à un total assez majeur. Saisir Trompe-la-Mort et s'emparer de sa banque, ce sera couper le mal dans sa racine. Aussi, cette expédition est-elle devenue une affaire d'État et de haute politique.
Oui, mais vous avez besoin d'une jolie femme.
Apprenez un secret. Il n'aime pas les femmes.
Je ne vois pas alors à quoi je suis bonne pour une semblable vérification.
Rien de plus facile. Je vous remettrai un flacon contenant une dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang qui simule une apoplexie. Cette drogue peut se mêler également au vin et au café. Sur le champ, vous transportez votre homme sur un lit et vous le déshabillez afin de savoir s'il ne meurt pas. Au moment où vous serez seul, vous lui donnerez une claque sur l'épaule. Paf ! Et vous verrez reparaître les lettres.
Mon cher monsieur, au cas où il n'y aurait point de lettres, aurais-je les 2000 francs ?
Non, 500 francs.
Eh bien, donnez-moi 3000 francs si c'est Trompe-la-Mort et rien si c'est un bourgeois.
Ça va, mais à condition que l'affaire sera faite demain. Et si vous étiez pressé de me parler, venez petite rue Sainte-Anne, demandez Monsieur Gondureau.
Bianchon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez original de Trompe-la-Mort et entendit le « ça va » du célèbre chef de la police de sûreté.
Il faut y réfléchir. Si ce Monsieur Vautrin était ce Trompe-la-Mort, peut-être y aurait-il plus d'avantages à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir. Et il serait homme à décamper gratis.
Ainsi que l'a dit ce monsieur, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel. Quelque vertueux qu'il puisse être, qui a bu boira, s'il lui prenait fantaisie de nous assassiner tous.
Oh.
Mais que diable ! Nous serions coupables de ces assassinats. sans compter que nous en serions les premières victimes.
Dans son fort intérieur, Eugène, pendant la matinée, s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le pied depuis une heure en échangeant avec Mademoiselle Taillefer les plus douces promesses. En se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme, Rastignac s'était embelli de son désespoir et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement dans la salle à manger et lut dans l'âme des deux jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie.
Messieurs.
Victorine se sauva en emportant autant de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie.
L'affaire est faite. Nos deux dandys se sont piochés. Notre pigeon a insulté mon faucon. Demain, à 8h30, Mademoiselle Taillefer héritera de l'amour et de la fortune de son père, pendant qu'elle sera là, tranquillement, à tremper ses mouillettes de pain beurré dans son café. Le frère Taillefer sera saigné par un coup que j'ai inventé. Une manière de relever l'épée et de piquer le front. Je vous montrerai cette botte-là, car elle est furieusement utile.
Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent.
Bien. Mon petit aiglon, vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime.
Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui.
Ah, nous avons encore quelques petits langes tachés de vertu. La dot vous rendra blanc comme une robe de mariée, et à vos propres yeux.
Rastignac n'hésita plus. Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs Taillefer, père et fils.
Vous êtes triste, mon enfant. Je vais vous égayer, moi. Ne me vantez pas, elle veut vous faire une surprise. Mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret. Vous serez rue d'Artois. À deux pas de la rue Saint-Lazare. Un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à 3 jours et que nous avons fini d'arranger ce matin. Nous avons bien fait les choses. Vous y serez comme un prince.
Le père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac.
Mon cher enfant, je me suis mis dans cela jusqu'au cou. Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose.
Que voulez-vous ?
Au-dessus de votre appartement, au 5e, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai ? Je me fais vieux. Je suis trop loin de mes filles. Et je ne vous gênerai pas. Vous me parlerez d'elles tous les soirs. Et puis... elle viendra chez vous, peut-être. Oh, gardez-moi près de vous. Elle vous aime trop. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de 1000 francs. Oh, la chérie, elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc là sur votre cheminée ?
Eugène, tout abasourdi, regardait son voisin d'un air hébété. Ce duel, annoncé par Vautrin pour le lendemain, contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de Breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots.
« Je veux que vous pensiez à moi à toute heure, parce que... Delphine... »
Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelques scènes qui avaient eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Le père Goriot était radieux. Il avait promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène, car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac et pour sa fille, et pour lui-même.
Vous irez la voir ce soir, elle vous attend. La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa danseuse. Ah. Il a été bien sot, comme on avril lui a dit son fait. Vous me prendrez avec vous, n'est-ce pas?
Oui, mon bon père Goriot, vous savez bien que je vous aime.
Je le vois. Vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. Vous la rendrez bien heureuse. Promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas?
Oh oui. Je dois sortir pour des affaires qu'il m'est impossible de remettre.
Puis-je vous être bon à quelque chose?
Ma foi, oui. Pendant que j'irai chez madame de Nucingen, allez chez monsieur Taillefer, le père. Lui dire de me donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance.
Serait-ce donc vrai, jeune homme? Feriez-vous de la cour à sa fille, comme le disent ces imbéciles d'en bas? Oh, ce n'est pas possible.
Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde. Je ne le sais que depuis un moment.
Ah, ah, quel bonheur.
Mais le fils Taillefer se bat demain. Et j'ai entendu dire qu'il serait tué.
Qu'est-ce que cela vous fait?
Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se...
La trouvez-vous jolie, la montre? Elle a bon goût, hein?
Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble et se trouvèrent, par suite de leur retard, placés à côté les uns des autres à table. Pendant le dîner, Vautrin fut pétillant de saillie et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid, consternait Eugène.
Gai comme un pinson.
Oh, madame Beaucaire, je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires.
Oh. Des affaires?
Eh bien, oui.
Mademoiselle Michonneau, ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise, que vous me faites l'œil américain? Faut le dire, je le changerai pour vous être agréable.
Poiret, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein.
Sac à papier.
Vous devriez poser pour un Hercule farceur.
Ma foi, ça va. Si mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père Lachaise.
Et Poiret.
Oh, Poiret posera en Poiret. Ce sera le dieu des jardins. Il dérive de poire.
Molle.
Vous seriez alors entre la poire et le fromage.
Tout ça, c'est des bêtises et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de Bordeaux, dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez.
Messieurs, madame la présidente nous rappelle à l'ordre. Je vous propose une petite bouteille au rama de vin de Bordeaux que le nom de Lafitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. Allons, Christophe, amène les liquides.
Voilà, monsieur.
Après avoir rempli le verre d'Eugène et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta pendant que ses deux voisins buvaient. Et tout à coup, il fit une grimace.
Diable, il sent le bouchon. Prends ça pour toi, Christophe. Et va nous en chercher à droite, tu sais.
Oui.
Nous sommes 16, des 108 bouteilles.
En un moment, le vin de Bordeaux circula, les convives s'animèrent, la gaieté redoubla. Le dos appuyé sur leur chaise, Eugène et le père Goriot contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air grave, en buvant peu. Tous deux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à faire pendant la soirée et néanmoins ils se sentaient incapables de se lever. Vautrin, qui suivait les changements de leur physionomie en leur lançant des regards de côté, saisit le moment où leurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se fermer pour se pencher à l'oreille de Rastignac.
Mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusés pour lutter avec notre papa Vautrin. Et il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j'ai résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort pour me barrer le passage. Ah, nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écolier. Le four est chaud, la farine est pétrie, le pain est sur la pelle. Demain, nous en ferons sauter les miettes par-dessus notre tête en y mordant. Et nous empêcherions d'enfourner? Non, non, tout cuira. Si nous avons quelques petits remords, la digestion les emportera. Pendant que nous dormirons notre petite somme, le colonel comte Franceschini vous ouvrira la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée. En héritant de son frère, Victorine aura 15 petits 1000 francs de rente. J'ai déjà pris des renseignements. Et c'est que la succession de la mère monte à plus de 300 000.
Alors, mon Vauquer, en forme ce soir?
Eugène entendit ces paroles sans pouvoir y répondre. Il sentait sa langue collée à son palais et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Bientôt le bruit s'apaisa, les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que Madame Vauquer, Madame Couture, Mademoiselle Victorine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, Madame Vauquer occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes de manière à en faire des bouteilles pleines.
Oh, sont-ils fous? Sont-ils jeunes?
Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène.
Il n'y a que Monsieur Vautrin pour faire de ces farces-là. Allons, voilà Christophe qui ronfle comme une toupie.
Adieu, maman. Je vais au boulevard admirer Monsieur Marty dans le Mont Sauvage. Si vous voulez, je vous y mène, ainsi que ces dames.
Ah, je vous remercie.
Bah comment, ma voisine?
Il nous est défendu d'aller à la comédie.
Allons. Les voilà partis, ceux-là.
Vautrin remua d'une manière comique la tête du père Goriot et celle d'Eugène. En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise pour qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleureusement au front.
Dormez, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours.
J'ai peur qu'il ne soit malade.
Restez à le soigner alors.
Il vous adore, ce jeune homme. Et vous serez sa petite femme, je vous le prédis.
Allons, maman. Mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller chercher un fiacre soi-même.
Mon Dieu. Dites donc, Madame Couture, cet homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits.
Pendant que Sylvie prenait le père Goriot par-dessous le bras pour le monter chez lui, Madame Couture écartait les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux.
Pauvre jeune homme, il est comme une jeune fille. Il ne sait pas ce que c'est qu'un excès.
Ah, je peux bien dire que depuis 31 ans que je tiens ma pension, il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que Monsieur Eugène. Est-il beau quand il dort? Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, Madame Couture. Bon. Oh, il tombe sur celle de Mademoiselle Victorine. Oh. À eux deux, ils feraient un bien joli couple.
Voisine, taisez-vous donc. Vous dites des choses.
Il n'entend pas. Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon grand corset.
Oh, bien. Votre grand corset après avoir dîné, madame, vous commettriez là une imprudence à vous coûter la vie.
Oh, ça m'est égal. Il faut faire honneur à monsieur Vautrin.
Vous aimez donc bien vos héritiers.
Allons, Sylvie, pas de raison.
À son âge.
Madame Couture et sa pupille, sur l'épaule de laquelle dormait Eugène, restèrent seules dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant.
Il n'a pourtant pas bu plus de 2 verres, maman.
Mais si c'était un débauché, ma fille, il aurait porté le vin comme tous ses autres. Son ivresse fait son éloge.
Eh bien. Ah, la jeunesse est bien belle, Madame Couture. Oh, pauvre enfant. Dors, le bien vient quelquefois en dormant. Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange? Il est digne d'être aimé, celui-là.
En les admirant ainsi, madame, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. Mais il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie, je dis souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh, qu'aperçois-je? Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Oh, votre père vous appelle auprès de lui.
Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau, qui vous adore.
En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de Vautrin.
Voilà maman Vauquer, belle comme un astre, et ficelée comme une carotte. N'étouffons-nous pas un petit brin. Hein, les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous pleurons, il y aura explosion, mais je ramasserai les débris avec un soin d'antiquaire.
Oh, il connaît le langage de la galanterie française, celui-là.
Adieu, enfant, je vous bénis.
Adieu, ma chère amie.
Ma chère mère, si ce bon monsieur Vautrin disait vrai.
Mais il ne faut qu'une chose pour cela, seulement que ton monstre de frère tombe de cheval.
Maman.
Mon Dieu, peut-être est-ce un péché que de souhaiter du mal à son ennemi. Eh bien, j'en ferai pénitence. En vérité, je porterai de bon cœur des fleurs sur sa tombe.
Le festoiement, à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé, décida la perte de cet homme. Bianchon, à moitié gris, oublia de questionner mademoiselle Michonneau sur Trompe-la-Mort. S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin ou, pour lui rendre son vrai nom, de Jacques Collin, l'une des célébrités du bagne. Puis le sobriquet de Vénus du Père-Lachaise décida mademoiselle Michonneau à livrer le forçat au moment où, confiante en la générosité de Colin, elle calculait s'il ne valait pas mieux le prévenir et le faire évader pendant la nuit. Elle venait de sortir, accompagnée de Poiret, pour aller trouver Gondureau, le fameux chef de la police de sûreté. Au geste de contentement que fit le grand homme de la petite rue Sainte-Anne en cherchant une fiole dans le tiroir de son bureau, mademoiselle Michonneau devina qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat.
Colin nous joue. Quand nous rencontrons de ces hommes, nous avons la ressource de les tuer, si pendant leur arrestation ils s'avisent de faire la moindre résistance. On évite ainsi le procès, les frais de garde, la nourriture, et ça débarrasse la société. En donnant un bon coup de baïonnette dans la panse de Trompe-la-Mort, nous empêcherons une centaine de crimes, et nous éviterons la corruption de 50 mauvais sujets qui se tiendront bien sagement aux environs de la correctionnelle. Voilà, de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les crimes.
Mais c'est servir son pays.
Eh bien, vous dites des choses sensées ce soir, vous. Oui, certes, nous servons le pays. Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Paris est Paris, voyez-vous. J'ai l'honneur de vous saluer. Mademoiselle.
Monsieur.
Monsieur.
Monsieur, je suis votre serviteur.
Eh bien.
Oui, Poiret.
Ce monsieur est très aimable et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour.
Le Père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossire. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Septième épisode. Avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Stéphane Bernard, Jean-Luc Porraz, Laurence Roy, Jean-Claude Frissung, Christine Murillo, Clément Bresson, Marie Crémer, Arnaud Churin, Henri Alexandre, Françoise Gaziot, Anouche Paré et Marina Cap. Bruitage, Elodie Fiat. Musique originale, Manuel Pesquine. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.